Laudetur Jesus Christus.
Attaque israélienne contre l'église de la Sainte Famille à Gaza. Hier, 3 personnes ont été tuées, plusieurs blessées, dont le curé. Nous entendrons Monseigneur Chomali, le vicaire du patriarche latin de Jérusalem pour la Palestine. La paroisse latine avait reçu de nombreuses reprises l'ordre d'évacuer, explique-t-il. Nombreuses sont les réactions à cette attaque contre la dernière présence catholique dans la bande de Gaza. Israël plaide l'erreur et regrette cet incident, comme l'a qualifié son premier ministre Benjamin Netanyahou. L'Ukraine a un nouveau gouvernement, à sa tête Lulia Sviridenko, jusqu'alors ministre de l'économie, nommée par Volodymyr Zelensky, elle a été confirmée hier comme première ministre par le Parlement. La France a remis les clés de sa dernière base militaire au Sénégal, la fin d'une présence de 65 ans, le début de nouvelles relations stratégiques fondées sur le respect de la souveraineté de chaque partie. La semaine dernière, Léon XIV plaidait pour une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Nous reviendrons en effet sur l'absence de règles internationales contraignantes dans ce domaine. Ce sera dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. La dernière présence catholique dans la bande de Gaza, touchée au cœur hier par un tir israélien, la paroisse latine de la Sainte Famille située à Gaza, pleure 3 morts, dont le concierge de la paroisse et une femme de 84 ans qui recevait un soutien psychosocial sous une tente de la Caritas dans l'enceinte de l'église. Ses victimes ont été enterrées dès hier soir. Le curé, le père Romadeni, a lui été blessé légèrement à la jambe. Toute la communauté chrétienne de Terre Sainte est sous le choc de cette attaque israélienne. Monseigneur Chomali, le vicaire pour la Palestine du patriarcat latin de Jérusalem, confie sa tristesse et ses interrogations, notamment celles concernant les circonstances du tir israélien.
L'armée israélienne a donné des ordres, très souvent je dirais, à nos fidèles d'évacuer le complexe de l'église de la Sainte Famille. Donc ils ont reçu des ordres d'évacuer, d'aller vers le sud, parce qu'ils veulent vider tout le nord. Nos chrétiens n'ont pas obéi à ces ordres, car ils ont peur d'aller au sud. Là, il n'y a pas de nourriture, ni d'eau, ni de médicaments. Ils seront dans l'anonymat, parmi des dizaines de milliers de gens affamés et sans les moyens de survie. Donc, peut-être qu'il y a une relation entre les ordres qui n'ont pas été obéis et aussi l'attaque d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un signal qu'il faut partir? Autrement, le pire vous arrivera. Nous ne savons pas. Mais un lien reste possible.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. Dès la nouvelle apprise dans la matinée, le pape a été informé. Léon XIV est profondément attristé par cette attaque militaire. Il assure le père Romanelli et l'ensemble de la communauté paroissiale de sa proximité spirituelle. Il renouvelle aussi son appel à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, gardant l'espoir d'une paix durable. Autre réaction, celle d'Israël, auteur du tir meurtrier, tir que le gouvernement regrette profondément. C'est ce qu'a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Chaque vie innocente perdue est une tragédie, a-t-il ajouté, disant partager la douleur des familles et des fidèles. Une enquête a été ouverte sur ce qu'il a qualifié d'incident. Ces déclarations interviennent alors que cette attaque a provoqué de vives critiques au niveau international. Plusieurs dirigeants, notamment européens, ont renouvelé leur appel à un arrêt des combats. C'est le cas de la présidente du Conseil italien ou du président français qui s'est entretenu au téléphone dans la journée avec le cardinal Pizzaballa, le patriarche latin de Jérusalem. Autre réaction, celle des catholiques, bien sûr, parmi elles celle des évêques de France. Ils rappellent leur solidarité avec l'Église et les peuples de Terre Sainte. Rien ne peut justifier que la paroisse de la Sainte Famille ait été l'objet d'une telle attaque, déclare-t-ils. L'armée israélienne, responsable de la mort de 4 personnes tuées dans 2 attaques, cette fois dans le sud du Liban. Israël continue de violer quasi quotidiennement le cessez-le-feu conclu en novembre avec le Hezbollah, qui l'accuse de vouloir rétablir des infrastructures terroristes. Donner une nouvelle impulsion à son pays en guerre depuis 178 semaines. Pour cela, Volodymyr Zelensky a largement remanié son gouvernement. Il a nommé une nouvelle première ministre au profil économique assumé et assuré. Avec cette nomination entérinée par la Rada ce jeudi, tous les regards Delphine Allaire maintenant se tournent vers la reconstruction de l'Ukraine.
La nouvelle chef du gouvernement ukrainien est la ministre de l'économie sortante, Xavier Yulia Sverdenko, 39 ans, s'est illustrée dans la négociation alambiquée de l'accord sur les minerais avec les États-Unis, où elle dispose de solides relations. Sa feuille de route, renforcer l'économie du pays, accroître la production d'armes avec un partenaire prioritaire, donc les États-Unis de Donald Trump ou Volodymyr Zelensky, a choisi, lui, d'envoyer comme ambassadrice son ex-vice-première ministre, Olga Stefanikhina. Celle-ci secondait le premier ministre sortant, Denis Khmygal, redirigé à la défense. Celui des affaires étrangères conserve son poste comme une bonne partie des autres, hormis celui crucial pour le pays de l'énergie. Cette nouvelle génération est perçue d'un bon œil sur la scène internationale, mais en interne, fusent quelques critiques. Tous sont très proches de l'influent cabinet présidentiel et de son chef, Andriy Yermak, personnage clé de la galaxie Zelensky. D'aucuns perçoivent donc ce remaniement le plus important depuis 3 ans comme une nouvelle étape d'une certaine centralisation du pouvoir.
Delphine Allaire, et on vient d'apprendre que l'Union européenne a adopté un 18e paquet de sanctions contre la Russie. Il prévoit un abaissement du prix du pétrole russe autorisé à l'exportation. Tout comme avec la France, c'est l'immigration dont il était question entre le Premier ministre britannique et le chancelier allemand. Keir Starmer recevait hier à Londres Friedrich Merz. Les deux hommes se sont entendus pour renforcer la lutte contre les passeurs et renforcer leur coopération en matière de défense. Ils ont signé aussi un traité d'amitié qui prévoit entre autres de simplifier les procédures aux frontières lors des échanges scolaires. Toujours en Royaume-Uni, les jeunes britanniques de 16 ans pourraient bien voter dorénavant. Le gouvernement veut en effet faire passer la majorité électorale de 18 à 16 ans. C'était une promesse de campagne de Keir Starmer pour moderniser la démocratie. À Londres, les détails de Jean Jaffré.
Jusqu'à présent, l'âge légal était de 16 ans pour voter aux élections locales au Pays de Galles et en Écosse, ainsi que pour le Sénat gallois et le Parlement écossais. Le projet de loi va être soumis au vote des députés. Le parlementaire conservateur Paul Holmes, porte-parole pour les collégiales locales, reproche au gouvernement de ne pas être cohérent. Vous pensez donc, s'est-il exclamé, qu'un jeune de 16 ans peut voter alors qu'il ne lui est pas permis d'acheter un billet de loterie nationale ou de l'alcool, se marier et aller à la guerre. Certains soupçonnent que la réforme puisse profiter aux travaillistes. Les jeunes seraient davantage portés à voter à gauche. Mais ils pourraient aussi favoriser les Verts et les démocrates libéraux, partis centristes. Toutefois, la cohorte des 16-17 ans représente un peu moins de 3% de la population et la participation des jeunes électeurs est moins élevée que celle des seniors. Cependant, cette réforme du code électoral pourrait jouer dans les circonscriptions où un élu travailliste n'a obtenu que quelques centaines de voix d'avance aux dernières législatives. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
Autre mesure prévue par le gouvernement britannique, par ailleurs, les dons aux partis politiques seront réglementés et ce afin de lutter contre des ingérences étrangères aux élections. C'est la fin d'une présence militaire vieille de 65 ans. Hier, les autorités militaires de la France et du Sénégal ont procédé à l'acte hautement symbolique de la rétrocession de la dernière emprise militaire des forces françaises au Sénégal. Un pan important de la coopération militaire entre les deux pays se referme ainsi, ouvrant une nouvelle page d'un compagnonnage stratégique fondé sur le respect mutuel et la souveraineté de chaque partie. À Dakar, les précisions d'Abdoulaye Diédou.
Ce départ voulu par les autorités de Dakar a été matérialisé par la remise symbolique des clés du camp Gaël situé au quartier Wakam. La cérémonie empreinte de solennité a été présidée par le chef d'état-major général des armées sénégalaises et son homologue français, le général Pascal Lanny. Le moment phare de l'événement sera ponctué par la levée du drapeau sénégalais suivi de l'hymne national qui acte officiellement la rétrocession du camp Gaël, dernière emprise militaire française restituée à l'armée sénégalaise. Après la rétrocession le 7 mars 2025 des camps Maréchal et Saint-Exupéry de Han, du quartier contre-amiral Proté du port de Dakar, cédé le 15 mai 2025, de la station d'émission interarmée de Rufisque et de l'escale aéronautique Henri Lemaître de Dias, acté le 1er juillet 2025. Pour le patron de l'armée sénégalaise, la fermeture de cette page de la coopération militaire entre les deux pays traduit la volonté du Sénégal de bâtir un nouveau cadre de coopération militaire fondé sur le respect mutuel et la souveraineté. Il a aussi magnifié cette coopération dynamique qui a contribué à la montée en puissance des armées sénégalaises. Pour sa part, Pascal Lanny, dira que ce retrait ne marque pas une rupture, mais une évolution profonde vers un partenariat stratégique renouvelé entre les deux armées. Abdoulaye Dakar, Radio Vatican.
Jeudi 10 juillet, dans un message adressé aux participants d'un sommet consacré à l'intelligence artificielle à Genève, le pape Léon XIV avait plaidé pour une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle. Outre les discussions avec les acteurs du domaine, comme le permet l'appel de Rome, finalisé par le Saint-Siège en février 2020, ainsi que l'éducation pour les utilisateurs adultes comme enfants, la réglementation juridique est encore peu avancée. Seule l'Union européenne s'est dotée d'une réglementation sur l'IA qui doit s'appliquer dans les prochaines années et provoque d'ailleurs des remous chez les acteurs du secteur. Céline Casté-Renard, professeure à Ottawa et titulaire d'une chaire de recherche en droit international et comparée de l'intelligence artificielle, nous explique l'absence de règles internationales contraignantes dans le domaine de l'IA.
D'abord parce que de manière générale, c'est toujours long et difficile d'obtenir des textes internationaux parce que il faut que les États se mettent d'accord et c'est toujours difficile d'obtenir des compromis au sein d'États qui n'ont pas toujours les mêmes visions des choses. Deuxièmement, dans le domaine de l'IA, c'est particulièrement difficile à mon avis parce que il y a une course technologique. Troisièmement, il y a aussi toujours une question de légitimité des instances internationales. S'il n'y a pas une forte volonté politique des États, les organisations internationales ne parviennent pas vraiment à rassembler ces États pour les inciter à agir ensemble. Et puis, il n'y a pas d'instance naturellement compétente dans le domaine aujourd'hui. C'est vrai que l'ONU travaille sur ces questions depuis longtemps dans plusieurs types d'instances. Mais ça va être un peu éclaté, par exemple sur les enjeux de sécurité ou les enjeux militaires, ça va être une instance. Sur des enjeux plus sociétaux, ça va en être une autre. Donc on manque aussi d'organisation unique pour agir.
Justement, quelle forme pourrait prendre cette organisation unique dont vous parlez ?
Tout est possible. Moi, je serais plutôt favorable à ce que ce soit au sein d'une organisation déjà existante comme l'ONU. Parce que les COP, c'est intéressant, mais c'est des rendez-vous réguliers, c'est pas beaucoup plus que ça. Et ça repose encore plus uniquement sur la volonté des États membres. Donc, on voit bien sur le climat, ça va, ça vient, un peu en fonction des courants politiques et des intérêts des États.
Réguler l'intelligence artificielle, c'est réguler les conséquences de l'intelligence artificielle, par exemple sur la propriété intellectuelle, sur la protection des données. Est-il possible d'appliquer les règles actuelles ?
Bien sûr qu'on peut utiliser ces règles et les appliquer à l'IA. C'est plutôt une question d'efficacité et de pertinence de ces règles. C'est pas une question d'impossibilité technique de les appliquer. Il s'avère que tout ne peut pas être capté parce que les règles ont été pensées sans IA. On le voit pour le droit d'auteur, on a pu prévoir des exceptions. C'est des exceptions qui ont pu être adoptées à un moment où on ne parlait pas d'IA générative. Donc il faut reposer les questions en connaissant les possibilités techniques aujourd'hui. Donc il faut pousser un petit peu plus loin en posant des règles spéciales pour à la fois s'adapter à des problématiques nouvelles comme des problèmes de discrimination qu'il peut y avoir dans la mise en œuvre des systèmes d'IA, mais aussi pour appliquer, essayer de faire respecter davantage les lois déjà existantes.
L'Union européenne s'est dotée d'un texte en 2024. Les autres pays vont-ils suivre ou s'inspirer de ces premières normes en matière d'intelligence artificielle ?
C'est forcément le pari de la Commission européenne, d'essayer de créer un effet Bruxelles, comme on a pu le voir dans d'autres domaines du droit du numérique et notamment la protection des données personnelles. Je dirais qu'avant l'arrivée de l'administration Trump, ça partait en ce sens. Il y a une législation au Brésil, en Corée du Sud, qui s'inspire énormément du règlement IA. Il y avait un projet de loi aussi au Canada, mort au feuilleton avec la démission du Premier ministre Trudeau. Et maintenant, avec l'arrivée de l'administration Trump et la vision anti-réglementation et pro-business, ça devient plus compliqué. Je dirais que les États sont un peu dans l'expectative, mais ont quand même bien conscience d'un certain nombre de risques. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas les nier. Les États n'ont pas très envie de voir des problèmes de discrimination, d'exclusion des femmes, par exemple, sur des systèmes d'IA de recrutement ou d'exclusion de certaines catégories de population. On est un peu dans l'expectative, on ne veut pas trop contraindre le marché, mais en même temps, on ne veut pas non plus avoir des gros scandales sociaux. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même un petit mouvement pour suivre l'Europe, mais certainement pas, à mon avis, une réglementation aussi compliquée et complète.
Interrogée par Jean-Benoît Harel, Céline Casté-Renard était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va ou bien sur notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.